les biographies. J'adore les biographies. Et plus encore les biographies romancées, celles d'hommes et de femmes ayant réellement existé, mais dont l'auteur imagine librement la vie. Le temps d'un livre, on a l'impression de mieux les connaître. Ils nous deviennent presque familiers. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de deux femmes exceptionnelles. Et comme d'habitude, je vous livre la quatrième de couverture de « Elle venait d'Orenbourg ». Montpellier, 1894. Deux jeunes filles russes s'inscrivent à la faculté de médecine. Exactes contemporaines de Marie Curie, elles connaîtront elles aussi un destin exceptionnel. L'auteur rend hommage à ces deux pionnières, à qui aucun livre n'avait encore été consacré. Raïssa Lesk, la mère de Joseph Kessel, qui suit son mari dans la première colonie juive d'Argentine, et Glafira Ziegelman, première femme admissible à l'agrégation de médecine. Interdite d'oral, car c'était une femme. Leur point commun ? Elles venaient d'Orenbourg. Deux parcours contrastés révélateurs de la condition féminine au tournant du XXe siècle. Du XIXe siècle, pardon. Racontés avec sensibilité et érudition. Une biographie qui se lit comme un roman. L'auteur, qui a un penchant certain pour les oublier l'histoire, exhume la vie de ces deux femmes pour notre plus grand plaisir. Bonjour Caroline Fabre-Rousseau.
Bonjour.
Caroline, d'abord peut-être quelques mots sur vous, sur qui vous êtes.
Alors, qui je suis
C'est large. Hein.
Je suis une femme, j'aime écrire sur les femmes. J'ai aussi la chance d'avoir eu plein d'expériences professionnelles très différentes. J'ai eu la chance d'avoir des enfants, donc ça me permet d'avoir un peu vécu quand même. Et c'est pour ça que je me suis mise à écrire tard, car je m'en donnais pas le droit, parce que j'admire beaucoup les écrivains américains du XXe siècle qui faisaient toutes sortes de petits boulots avant de se jeter à corps perdu dans les mots qui revisitaient leur vécu finalement. Donc c'est vrai que ça c'est ma deuxième biographie, parce qu'effectivement la vie des autres m'intéresse énormément. Et puis, que vous dire d'autre, j'aime la musique. Donc quand j'écris, je parle. Le rythme des phrases m'importe énormément, je réécris tout le temps. J'aime les langues étrangères, donc c'est pareil, j'ai fait des traductions, donc trouver le mot juste, c'est important. Et puis j'aime la vie.
Vous avez toujours écrit ? C'est quelque chose de récent. Le premier livre est sorti en 2012.
Oui. Alors, j'ai toujours écrit parce que j'aimais écrire, mais officiellement, effectivement, j'ai m'y suis mise sérieusement vers 2010. Et le livre a été publié en 2012. J'avais écrit des nouvelles. J'avais pas trop le temps non plus parce que je travaillais, j'avais 4 enfants à élever. Et je m'y suis mise à écrire pour quand j'ai adopté leur rythme, quand ils étaient en prépa.
Vous avez fait un métier qui était très loin de l'écriture ou assez proche
non,
quand même ?
Non, quand ça m'arrangeait, j'étais enseignante. J'ai travaillé aussi pour des chasseurs de têtes. J'ai travaillé dans des organismes de séjour linguistique. Je n'ai pas écrit dans mon métier, mais j'ai été en tant que prof d'allemand, d'anglais, de français, proche de la
du
littérature.
Mot, en tout cas.
Voilà.
Le fondement de l'histoire, c'est l'histoire. C'est l'histoire de ces deux femmes. Vous avez toujours été passionnée par l'histoire ou c'est quelque chose qui est venu
Oui, j'ai toujours aimé l'histoire, mais pas l'histoire éloignée avec des chiffres qui m'ont toujours glacée. J'ai toujours été très marquée par les destins de mes grands-mères qui ont vécu les deux guerres. Et cette période-là est pour moi extrêmement romanesque parce que des individus n'ont plus de choix, ils sont happés par l'histoire. Et donc j'aime écrire, j'invente aussi des histoires, hein, mais j'ai écrit des romans, sur ces oubliés de l'histoire dont le destin bascule alors qu'ils n'ont rien fait, rien choisi. Et je trouve qu'on retient mieux l'histoire quand on la vit à travers des personnages qui ont des émotions. Sinon, apprendre l'histoire dans des livres, ça m'a toujours plutôt au contraire révoltée.
Vous n'étiez pas bonne élève en histoire aussi quand
si, même si, j'étais bonne élève. Et puis, quand j'ai fait, j'ai fait des études, un double cursus à la Sorbonne, littérature anglaise et puis allemande, après avoir fait Hippocagne, et j'ai fait un mémoire qui avait c'était un sujet historique. Mais je ne me serais pas vue uniquement à faire de l'histoire, parce que j'adorais les langues étrangères, la littérature. Donc,
Mais c'est vrai que la façon d'enseigner l'histoire maintenant a beaucoup changé quand même par rapport à avant, où il y avait surtout des ordres chronologiques. Maintenant, justement, on a une vision de l'histoire beaucoup plus depuis Duby, depuis tous ces nouveaux historiens.
Oui, et puis thématique.
Voilà.
Donc c'est moins du saucissonnage, découpage, c'est plus les grands mouvements qui traversent la vie des hommes.
D'ailleurs, dans des biographies romancées comme la vôtre, on peut retrouver ça. C'est-à-dire qu'en même temps, quand vous faites la peinture de ces bourgeois russes de 1880, le livre commence en 83, finit en
1918.
On voit bien quel était leur milieu. Vous parlez en même temps de ce qu'ils aimaient écouter, de ce qu'ils aimaient boire, de ce qu'ils aimaient manger, des trains qu'ils prennent.
Les trains, c'est très important. Hein. C'est le siècle du train, le 19e, 20e. Sans le train, les gens n'auraient pas bougé, n'auraient pas changé de vie. Là, ça leur a donné des chances extraordinaires, notamment à tous ces juifs d'Europe centrale qui ont pu fuir tous ces pogroms épouvantables de l'époque. Et c'est vrai que j'aime bien me replonger dans ces époques. Alors, je regarde beaucoup de cartes postales, par exemple. Je travaille très visuellement pour comprendre quel était le décor. Quand je fais mes recherches, je vais aux endroits où étaient les personnages. J'avance comme ça, en fait.
Littérature anglaise, littérature allemande, c'était quoi vos grands auteurs?
Alors, là, c'est
non,
toujours une question
vous ont donné envie d'écrire,
à brûle
voilà.
pour point. Oui. Alors, j'ai toujours adoré Scott Fitzgerald, parce qu'il a une manière poignante et légère, en peu de mots, de mettre des situations très rapidement en scène. Avec les deux pôles, la gloire et la déchéance. J'aime ça, j'aime beaucoup, moi, en fait, Balzac, pour ses fresques sociales et toutes ses galeries de portraits. J'aime les romanciers russes. J'ai baigné, adolescente, j'ai dévoré Guerre et Paix, L'Idiot, j'adore. Parce qu'on est, on est transporté ailleurs. Et puis.
Jane Austen?
Ah bah oui, je voulais le dire, parce que Jane Austen, c'est mon médicament, en fait. Mais bon, tout le monde maintenant...
C'est le mien aussi.
Voilà, tout le monde lit Jane Austen, c'est devenu tellement commun. Mais moi, je la lisais quand c'était pas à la mode. J'avais même envie d'écrire sur ses amours cachés. Et puis voilà, j'ai pas eu le temps. Mais puis tout le monde s'occupe de Jane Austen, donc je vais la laisser avec les autres.
C'est avec la Jane Austen moderne qu'ils nous ont sorti avec Bridget Jones,
oui,
qui est vraiment
voilà,
avec Monsieur Darcy qu'on retrouve.
Partout, un peu trop. C'est un peu écœurant. Donc oui, j'aime Jane Austen, j'aime George Eliot, Middlemarch, ça va vous surprendre, mais j'aime beaucoup Goethe, les affinités électives de Goethe, c'est pour moi le plus beau livre qu'il ait pu écrire et qui met en scène des couples irrésistiblement attirés de manière presque chimique. Donc oui, de toute façon, j'ai tellement d'auteurs que j'aime que c'est pas très simple de donner les meilleurs.
Non,
moi.
C'est sûr, mais on peut être des fois plus inspiré ou influencé, jeune lectrice, par la littérature russe, par exemple. Enfin, moi, je sais que j'ai découvert beaucoup plus tard.
Oui.
Moi, j'aimais ce qui m'a amené à la littérature, c'était la littérature américaine. Mais,
Oui, moi, beaucoup, Dos Passos, Hemingway. Et surtout Carson McCullers.
Ah ben moi aussi, c'est Le cœur est un chasseur solitaire qui m'a donné envie de lire, en tout cas, sinon d'écrire.
Et surtout parce qu'elle a le génie du titre. Elle trouve des titres absolument Clock Without Hands. Je ne sais pas comment on l'a traduit en français, mais c'est l'horloge sans aiguilles.
Oui,
mais en anglais, aiguille, c'est hands, les mains. Donc, elle fait plein de titres comme ça, de Sojourner. Enfin,
d'ailleurs, Le cœur est un chasseur solitaire. Je ne sais pas quel est le titre américain.
Je ne sais plus. Sinon, il y a The Ballad of the Sad Café, qui a été traduit comme La Ballade du Café Triste. The Heart is a Lonely Hunter.
Je crois.
C'est comme ça. Ouais.
Mais j'ai tout lu, j'avais 15 ans, et c'était le portrait d'une petite jeune fille de 15 ans en plus. Donc, j'ai retrouvé cette très belle écriture après dans Joyce Carol Oates, qui était pour moi un grand auteur aussi, avec cette même vision de l'Amérique. Ce roman, c'est le sixième, depuis 2012. Donc, vous écrivez pour vous, en définitive, avant 2012 vous...
Oui, c'est ça. J'écrivais des petites histoires pour mes enfants, des nouvelles. Mais je m'étais auto-censurée parce que quand j'avais fait Hippocagne, évidemment, à l'époque, on nous ramenait plus bas que terre. Et je me sentais écrasée par tous les génies que j'étudiais, Flaubert, Musset. Donc, en totale imposture possible, interdiction d'écrire, tellement ça allait être nul par rapport à tout cela. Donc, ça m'a... au contraire, paralysée. Et j'écrivais des petites nouvelles, mais que je montrais à personne. Et puis j'écrivais mon journal où je relatais des choses, mais je me suis mise à écrire quand j'ai eu un peu plus de temps aussi. Ça demande beaucoup de temps.
Après 2012, vous êtes déparalysée parce qu'il y en a eu 6 depuis.
Vous savez, Amélie Nothomb a écrit 3 livres.
Oui, parce
qu'elle en publie qu'un, parce qu'elle ne veut pas que l'éditeur touche à un mot. Donc s'il n'a pas aimé le premier, il lui donne le deuxième. S'il n'a pas aimé le deuxième, il lui donne le troisième.
Je crois que maintenant, il prendrait tout l'éditeur. Parce qu'elle est tellement... Donc, même pas 10 ans, 6 livres, 2 bio. J'aimerais que vous nous disiez quand même un mot de votre personnage précédent, de Julie Hugo.
Oui, alors j'avais écrit La belle-sœur de Victor H, petit clin d'œil à Adèle H de Truffaut, parce qu'en fait, j'ai découvert que nous avions à Montpellier une fille de marquis, le marquis de Montferrier, extrêmement talentueuse, totalement tombée de l'oubli, une héroïne romantique par excellence, qui a fait vivre sa famille, donc père, mère, sœur, enfant, frère, neveu, de son pinceau, largement. Elle les a sauvés du désastre et de la ruine après la Révolution, puis après l'Empire. Elle a eu une vie passionnante et surtout, ce qui m'a passionnée, c'est de voir comment elle avait pu devenir peintre à une époque où les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'Académie des Beaux-Arts, de voir de nu, et comment elle a percé dans un monde d'hommes. Et elle avait surtout, j'avais lu 2-3 lettres, beaucoup d'humour, de vivacité, d'impertinence. C'était, je pense, la seule femme qui ait pu se moquer, mettre en boîte Victor Hugo, le monument, et qui a pâti de l'ombre de Victor Hugo.
Il y avait beaucoup de documentation pour écrire sur elle.
Oui, j'avais toute la correspondance de Victor Hugo publiée en 2 tomes.
Donc, il en parle dedans.
Ah oui, parce qu'en fait, il y a eu un rapport très ambivalent entre lui et Julie Duvidal, qui a fini par épouser son frère aîné, Abel, dans des circonstances plus que douteuses. Mais je ne vais pas tout révéler parce qu'il faut beaucoup mieux lire le livre.
D'accord. Alors celui-là est édité aussi chez Brefeuille Étoilée ?
Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Il est sorti en 2016. Et là où je suis très contente, c'est qu'un de ces tableaux, j'ai retrouvé dans les réserves du musée Fabre, jeune grec, qui maintenant trône en bonne place à côté des tableaux de son ami Delacroix, au premier étage, dans la salle bleue, assortie à la couleur des manches du portrait de la jeune grecque.
Les autres, ce sont des romans, les autres titres ?
Oui, c'était Malgré nous, le premier roman qui a très très bien marché, sur des Malgré nous enrôlés de force dans la Wehrmacht. Je ne suis pas alsacienne, je tremblais de peur quand le livre est sorti en Alsace, mais au contraire, ils étaient ravis que quelqu'un de non-alsacien parle de ces Malgré nous, qui ont eu un sort vraiment tragique.
Dont on parle peu aussi.
Voilà, alors c'est en arrière-plan, hein. C'est un roman d'aujourd'hui qui dépeignait une famille en totale explosion, avec comme personnage principal un piano. Donc il y avait une playlist dans le livre. Après, j'ai écrit Café zébreté à l'amande, donc là, ça n'avait plus rien à voir. C'était plutôt le burn-out, mais traité de manière un peu impertinente, avec un voyage au Maroc qui montrait la différence de rythme entre notre société autour de la machine à café et puis la nonchalance autour d'une tasse de thé à la menthe, avec, pareil, un arrière-plan historique, les émeutes de Meknès après l'indépendance, qui avaient donné lieu à des massacres épouvantables dont personne ne parlait. Et puis j'ai publié des nouvelles qui ont été mises dans des magazines, des poèmes. J'avais gagné un prix de l'auteur sans piston, je crois. Voilà.
Je vous propose de passer une petite plage musicale avant de parler plus longuement du livre. Et vous avez choisi pour nous le 2e concerto pour piano de Rachmaninov, le 2e mouvement. Et vous m'avez dit... À partir de la 4e minute, c'est encore plus beau. Vous nous dites pourquoi ?
Déjà parce que c'est russe, que je suis totalement transportée par Rachmaninov. Certes, il est connu, mais pas autant que le premier qui servait de générique apostrophe. Et il est bouillonnant, mais aussi plein de retenue dans ce deuxième mouvement. Et c'est ce que j'aime aussi dans l'âme russe, c'est ce mélange extrême et parfois discret aussi. Donc c'est toute l'ambivalence et la richesse de l'âme russe.
Alors on écoute. Nous sommes toujours sur FM+, avec Caroline Fabre-Rousseau pour « Elle venait d'Orenbourg ». Caroline, pour entrer au mieux au cœur de votre livre, j'ai choisi d'en lire un extrait qui raconte l'inscription de Glaphyra à l'Université de Montpellier. On reviendra dessus. L'employé préposé au registre des inscriptions de la faculté de Montpellier tire la langue et s'applique. Il ne veut pas faire de faute. Tous ces noms russes sont si difficiles. Et les étudiants, avec leur accent impossible, ne l'aident nullement quand ils épellent à toute vitesse leurs noms et prénoms. Le 12 avril, il en avait encore écorché un. Il s'était fait reprendre avec autorité, pourtant ce n'était pas bien grave, il manquait un « e », un minuscule « e » qui ne changeait rien au sens général. Mais la demoiselle Eagleman l'avait tout de suite remarqué. Il l'avait rajouté en tout petit, pour ne pas gâcher l'ensemble. Il soignait particulièrement les premières lignes. C'était sa manière à lui de rendre solennelle l'entrée à la prestigieuse faculté de médecine de Montpellier, l'une des plus anciennes d'Europe. Les majuscules, les pleins et les déliés intronisaient en grande pompe les nouveaux inscrits. Il prenait son temps, en silence, puis attendait que l'encre sèche, avant de compléter en petits caractères les signes suivants. Pas de buvard. Il avait tout son temps. Aujourd'hui, le 16 avril, c'est simple. Le nom est court. Lesque. Une syllabe. Plus simple que Ziegelman, avec un E. Le prénom lui est totalement inconnu. Raïssa. Avec un S, deux S. Trop tard, ça serait un S. Il ne va pas raturer une nouvelle fois. Glafira Ziegelman était née à Orenbourg. Ça, c'est facile. Raïssa ou Raïssa Lesque va devoir lui épeler lentement cette ville russe dont il n'avait jamais entendu parler. Ponomarevka. Heureusement, elle parle assez bien français, comme Glafira Ziegelman d'ailleurs. Se connaissait-elle? Il jurerait que oui. Donc nous l'avons déjà dit, le livre commence en 1883 et se termine à la fin de la Première Guerre mondiale. Comment vous les avez rencontrées, ces deux femmes, vous?
Sur les bancs de la fac de médecine, par le plus grand des hasards. J'avais été invitée à un colloque sur tout ce qui était fait autour des soins apportés aux femmes atteintes d'un cancer du sein. Et il y avait des œuvres d'artistes, etc. Et le doyen de l'époque avait accueilli tout le monde en disant qu'il se réjouissait qu'il y ait beaucoup de femmes, et parce qu'il y avait dans son université plus d'étudiantes que d'étudiants. Et malheureusement, toujours moins de professeurs eux que de professeurs. Et il a rappelé que les premières étudiantes n'étaient pas françaises, puisqu'il fallait avoir le bac, ce qui était arrivé très tard pour les françaises. Et la première femme admissible à l'agrégation était russe, mais qu'elle avait été interdite d'oral. Et en fait, j'étais en train d'écrire La belle-sœur de Victor H. Donc j'ai mis ça dans un carnet et j'ai décidé de m'en occuper plus tard. Et quand j'ai commencé à chercher, aidée en cela d'ailleurs par le professeur Chamas, que je remercie, je me suis aperçue qu'elle était venue avec Raïssa Lesque, future Madame Kessel. Alors là, je me suis dit, mais là, il faut vraiment que je creuse. Bon, ça va être difficile parce que parler de deux femmes à la fois, ça va pas être évident, mais je relève le challenge. Et voilà, donc j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai vu qu'il y avait des descendants et j'ai cherché à rencontrer une descendante qui finalement habitait Montpellier, donc vraiment de la chance.
Une descendante de Glafira.
De Glafira, oui, oui. En revanche, j'ai
du
pas
côté
pu...
Kessel, vous avez rencontré
non,
personne.
Non, Kessel, il n'a pas eu d'enfant.
Et son frère le plus jeune non plus?
Si, mais ouais, ça ne m'intéressait pas,
parce
que j'avais assez de documents pour Aïssa et très peu pour Glafira.
C'est dans l'histoire du roman, c'est l'échange entre ces deux femmes, c'est notamment beaucoup d'échanges épistolaires, donc vous me disiez en off que c'était des échanges inventés.
Oui, comme j'aime beaucoup écrire des lettres et qu'aujourd'hui on peut écrire que des SMS ou des petites stories ou des textos. Et en fait, j'avais déjà adopté la technique pour La belle-sœur de Victor H. et ça avait l'air de plaire au lecteur. Donc là, j'ai en fait inventé des lettres tout à fait probables, hein, que se seraient échangées Glafira et Raïssa quand Raïssa était sur les routes ou sur les mers, tandis que Glafira, elle, n'a pas bougé de Montpellier, à part 3 années à Pézenas, donc c'est pas très loin. J'ai donc eu ces lettres-là qui sont fausses, et puis j'ai mis parfois des extraits de lettres réelles entre celles échangées entre Glafira et son mari à Mangosel, mais parce qu'il fallait maintenir l'intérêt du lecteur, il fallait que ça soit vivant, et il fallait surtout maintenir le lien entre les deux, parce que sinon j'allais avoir deux biographies juxtaposées, ça aurait été affreux.
En même temps, elles sont tellement différentes, ces deux femmes, entre Raïssa qui est voyageuse, qui porte son bonhomme. Bon, le livre commence d'ailleurs par le portrait de Samuel Kessel, de sa vie, qui sort d'un ghetto
misérable
et qui arrive à Montpellier. En plus, après, il y a plein de tracasseries, puisque bon, le bac, de validation de bac, il est obligé de passer.
Oui, en fait, c'est très intéressant cette trajectoire de Samuel Kessel, parce que lui, il est d'origine misérable, débit de boisson dans un ghetto atroce de Lituanie, interdiction de parler russe, mère qui veut qu'il soit rabbin, tandis que Raïssa est d'un milieu très favorisé. Elle est en dehors de la zone de résidence. Son père a l'autorisation de résidence parce que c'est un marchand de première catégorie. Ces deux-là vont, par le plus grand des hasards, la vie est bizarre quand même, se marier. Mais ils n'ont pas du tout le même, ils sont pas du même milieu. Et ce qui les lie quand même, c'est le même désir de se dévouer à son prochain martyrisé, donc les juifs
et coreligionnaires.
Voilà, merci. Et puis l'amour de la médecine,
oui.
Hein, parce que c'est vrai qu'on disait Glafira et Raissa sont différentes, mais elles viennent de la même ville, c'est milieu aisé, elles veulent devenir médecin à la base. Et alors Raissa aurait voulu d'abord devenir comédienne. Et ça, bah elle adorait la littérature et elle a transmis ça à sa famille, hein, parce qu'elle est quand même mère de Kessel et grand-mère de Maurice Druon, donc c'est pas rien. Et elle a fait lire Pouchkine, enfin, dans le texte à Joseph quand il était petit, elle lui a lu tous les contes, donc elle a eu une influence
considérable. Elle est très heureuse d'ailleurs de la facilité de Kessel pendant ses études, qui était super brillant.
Super brillant, mais bah, les deux parents étaient quand même très très brillants, puisque Samuel, bah, voilà, il a réussi à s'extirper de ce ghetto à la force du poignet. Il est arrivé à Paris, il connaissait personne, il a bossé comme un fou, il en est tombé malade, il a attrapé la tuberculose, il a failli crever, on l'a envoyé à Montpellier pour se remettre, mais on pensait que c'était la fin. Il s'est remis, et voilà, et puis il a rencontré cette cette incroyable Raissa.
Oui, parce qu'en définitive, elle va beaucoup, si ce n'est se sacrifier, quand même pas mal, puisqu'il part, à chaque fois, elle le suit.
Et oui, parce qu'en fait, Raissa, ben, contrairement à Glafira, Raissa va arrêter ses études. Donc, elle va suivre son mari en Argentine, car il a une dette envers le baron von Hirsch, qui a fondé cette colonie en Argentine. Il devient premier médecin là-bas, dans la Pampa. C'était une expérience atroce.
Elle en a un souvenir, elle le raconte d'une façon abominable.
Mais j'aurais pas supporté moi non plus. C'était le tout début. Les gauchos, c'était des vraiment des bêtes. Hein. Il n'y avait personne. L'isolement était total. Elle n'avait pas l'habitude de ça. Hein. Elle pensait qu'elle allait se retrouver dans une datcha comme au bord de la steppe à Orenbourg. Hein. Et ce n'était pas ça. Donc, elle a eu ces trois années-là où elle a donné quand même naissance à Joseph Kessel là-bas, tombée enceinte du deuxième et elle n'a pas tenu le coup. Il a fallu rentrer.
Le voyage de retour est une horreur.
Ah hein. Oui, Joseph a failli mourir. On ne sait pas comment elle s'en est sortie et comment elle n'a pas perdu le deuxième. Hein. Mais un tempérament de fou. Et c'est elle qui prend toujours les choses en main parce que Samuel est complètement traumatisé par les tracasseries administratives de l'Empire russe de l'époque. On peut comprendre, hein, ceci dit, puisqu'on en faisait voir aux Juifs. Hein.
Mais elle le porte, contrairement à Glafira, enfin contrairement, c'est pas tout à fait contrairement, qui elle a la chance de rencontrer, donc Amand Gossel,
oui,
qui lui la porte alors vraiment...
Il la porte pas, il la traite d'égal à égal.
Oui, voilà.
Ils sont vraiment tous les deux médecins.
Un couple moderne par rapport à l'époque.
Excessivement moderne et qui m'a vraiment fait penser à Pierre et Marie Curie, vraiment.
Après on apprend plein de choses aussi, notamment, enfin moi il y a toute un passage qui m'a vraiment intéressée sur le sanatorium qu'avait Gossel et qu'elle reprend pendant qu'il est à la guerre parce qu'il s'engage
et il est appelé d'office en tant que médecin militaire, donc la guerre est très longue parce que la démobilisation va être très 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 longue, hein. Les militaires reviennent d'un an après la guerre, hein. Personne ne le sait, hein. Donc il y a à gérer la démobilisation et la grippe espagnole, hein. Donc c'est pas une période facile. J'ai voulu aussi évoquer ces événements quand même aussi dans le livre. Il y a aussi la révolte vigneronne en 1907. Je voulais quand même l'introduire dans le livre parce qu'il y a tout un... J'avais effectivement l'ambiance russe, d'accord, mais elle, Glafira, elle est totalement ancrée dans Montpellier, donc il fallait redonner ça aussi. Et ça m'amusait aussi d'avoir deux destins aussi différents, puisque Glafira ne bouge pratiquement pas, sauf deux fois pour aller en Russie. Une fois d'ailleurs, puisque la deuxième fois a été annulée à cause de la guerre, où elle rencontrera Raissa, mais sinon elle ne bouge pas, quoi. Et Raissa, De toute façon, avalent les kilomètres.
Montpellier, c'est le moment où elles sont heureuses, toutes les deux. C'est ce qui les ramène toujours un peu. Bon, la Fira y restera, mais ça les ramène toujours à leur jeunesse, à leur liberté. Vous faites des peintures de Montpellier, d'air frais, après tout ce qu'elles avaient connu, le froid de la Russie, voilà, de
aussi,
Genève.
Parce qu'elles ont d'abord été à Genève
tout
un an.
Tout ce qu'elles traversent, là, justement, l'importance des trains, de ces voyages en train et tout ce qu'elles traversent, elles arrivent à Montpellier, c'est une certaine libération.
Oui, et puis pour les jeunes filles, la fac de médecine de Montpellier était moins terrible que celle de Paris, où les étudiants les huaient. J'ai retrouvé des lettres de professeurs qui prenaient la défense des étudiantes on s'occupait d'elles. Donc les parents envoyaient plutôt leurs filles, si possible, à Montpellier.
Mais c'est vrai que dans le roman, on n'en parle pas, mais parce qu'au début, il y a la rencontre avec Paul Valéry aussi.
Ah, ça oui, hein? C'est très important.
Il y a plein de passages dans le livre. Bon, voilà, on croise un moment Ambroise.
Alors voilà, parce que Paul Valéry, c'était Ambroise Valéry à la base. Et c'est lui qui a appris à Samuel Kessel, donc le père de Joseph, à jouer aux échecs. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et il lui lisait ses premiers écrits avant d'avoir sa crise mystique et d'arrêter d'écrire, puis de reprendre beaucoup plus tard. Et il y a des lettres de Valéry à Samuel et à Joseph qui sont au musée à Sète, que l'on peut voir et qui m'avaient vraiment émue quand je les avais découvertes.
Si vous auriez pu faire 600 pages si vous étiez un peu approfondie à chaque rencontre.
Ah oui, bien sûr.
Mais justement, c'est ce qui rend le livre léger et agréable, avec un style très nerveux, hein, comme on a pu le voir dans l'extrait que j'ai lu, avec ces portraits qu'on croise régulièrement.
Oui, c'est des portraits. Et pour ne pas perdre le lecteur, j'ai fait attention de mettre à chaque début de chapitre date et lieu. Parce que sinon, même moi, au début, je me perdais.
On pourrait en parler des heures, mais c'est bientôt la fin de l'émission. Donc, où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Où est-ce qu'on peut le trouver, d'abord, ce livre?
Alors, il sort le 15 février. Ensuite, je serai invitée à la faculté de médecine le 27, parce que ce livre a été préfacé par le doyen de la faculté de médecine, qui est ravi qu'on mette un peu coup de projecteur sur la Fiera Ziegelmann, dont un amphithéâtre porte le nom. Il va être inauguré officiellement ce jour-là. Il y aura le 12 mars aussi à l'ancien amphithéâtre d'anatomie.
On peut vous retrouver sur Facebook, Instagram.
Oui, suivez-moi, suivez mes stories sur Instagram.
Mais écoutez, merci beaucoup pour ce bel échange, Caroline. Et je rappelle que le livre Elle venait d'Orenbourg est paru aux éditions du Chèvrefeuille étoilé et disponible à partir du 15 février dans toutes les bonnes librairies. S'il n'est pas dans les rayons, commandez-le et achetez-le chez vos libraires. Merci beaucoup, à très vite. Merci beaucoup, Caroline.
Au revoir.
Au revoir.